Ce soir, on regarde Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, qui sont trois des quatre grands prophètes dans la prophète majeure dans la Bible. Et l'idée de prophète majeur, c'est pas forcément l'idée d'importance ou de signification dans la Bible, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup plus écrit. La taille des livres sont plus grands que les autres prophètes. Donc il y a les quatre prophètes majeurs, il y a 12 prophètes mineurs, et puis il y a d'autres prophètes qui sont mentionnés, mais qui n'ont pas forcément laissé d'écrit. Dans les rois et chroniques, on voit des noms d'autres prophètes qui sont nommés, mais dont on n'a pas d'écrit restant. Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel sont des prophètes du royaume de Juda, c'est le royaume du sud. Donc, on avait regardé les monarchies. Mireille, je pense que vous n'étiez pas là. Et donc, on avait regardé la séparation entre le royaume du sud avec Juda et le royaume du nord, Israël. Et on avait dit que ça conditionnait une grande partie des événements de l'histoire de l'Ancien Testament. Et on avait dit que ces histoires à propos des deux royaumes, cette chronologie, étaient aussi le cadre pour les prophètes. C'est-à-dire que les prophètes sont des contemporains des rois et des événements qui ont lieu dans les livres de rois, Samuel et Chroniques. Et que ça permettait donc d'avoir un contexte pour comprendre ce qui était écrit dans les livres des prophètes, avec les noms des royaumes, avec les noms des personnages en question, avec les différents rois. Voilà. Et donc Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel étaient dans le royaume du sud. Et on va les regarder séparément de Daniel, l'autre grand prophète, parce que Daniel a une grande importance prophétique par rapport à l'Église et à la fin des temps. Et on va s'attarder un petit peu plus sur cette chronologie de l'Église et de la fin des temps par rapport à Daniel. Et donc on a besoin d'un petit peu plus de temps pour ça. Ces livres des prophètes sont des livres assez uniques dans la littérature mondiale, dans le style et dans la portée des écrits et aussi dans la réalisation des prophéties, les choses qui sont décrites et qui sont arrivées ou qui doivent encore arriver. Et il y a eu d'ailleurs au cours de l'histoire beaucoup de contestations, beaucoup de gens qui ont critiqué, qui ont dit qu'ils n'avaient pas pu être écrits à la date en question pour différentes raisons. Mais la principale raison, c'est qu'il y a des prophéties vraiment détaillées et que ces prophéties gênent les gens parce qu'ils sont obligés d'admettre un élément inexplicable en refusant de croire à Dieu. Et donc, il y a souvent eu des gens qui ont contesté et qui ont voulu un petit peu réviser ces écrits en disant « bon, cette partie-là, elle a été écrite et rajoutée plus tard, etc. » On va voir pour Ésaïe que ça a été démontré, confirmé au niveau de la justesse des écrits à cause de manuscrits qui ont été trouvés en Israël par les archéologues. Et ce sont donc des livres qui ont une grande importance parce qu'ils donnent un poids à la Bible par leurs prophéties qui s'accomplissent, qui se sont accomplies dans l'histoire et qui se sont accomplies avec la vie de Jésus surtout et la nation d'Israël et pour les choses qui doivent encore arriver. Et ils donnent vraiment une légitimité à la Bible. Incroyable. Et d'étudier en détail ces livres, c'est quelque chose de vraiment, vraiment passionnant. Évidemment, encore une fois, on passe une heure dessus, mais on pourrait passer beaucoup de temps sur ces choses. Les prophètes, ce sont les porte-paroles de Dieu. Ils doivent communiquer le message que Dieu leur donne à son peuple. On pourrait dire d'eux que ce sont un petit peu des voyants, parce qu'ils ont cette approche du futur, hein. Que ce sont des sentinelles qui doivent essayer de mettre en garde le peuple sur des dangers qui guettent. On pourrait aussi les appeler des gardiens ou des bergers, notamment Ézéchiel, dont on parle comme étant un berger, et qui est évidemment une annonce un petit peu du bon berger que sera Jésus dans les Écritures plus tard. Ils doivent avertir le peuple. Et avant tout, leur message a pour but de changer les comportements des gens, de leur donner un message de la part de Dieu pour qu'ils changent leur manière de vivre pour plaire à Dieu, pour obéir à Dieu. Et un commentateur disait qu'ils sont ancrés dans le passé, qu'ils jugent le présent et qu'ils préparent l'avenir. Il y a 4 thèmes qui ressortent chez ces prophètes. La première, c'est le châtiment imminent du peuple d'Israël, avec l'exil et puis la dispersion parmi les nations. Ensuite, le deuxième point, c'est le châtiment des nations qui ont opprimé le peuple de Dieu. Le troisième point, c'est l'annonce du retour des Israélites dans leur pays, avec 2 accomplissements au cours de l'histoire. Et puis le quatrième point, qui est sans doute le plus important, parce que ça annonce le point d'orgue de l'histoire humaine, c'est la venue du Messie et l'établissement du règne de Dieu sur la terre. Pour comprendre ces prophètes, donc j'en parlais en commençant, il est très important d'avoir une bonne connaissance du contexte. Si on les lit sans comprendre le contexte, soit on comprend rien, soit on comprend très mal. Et il y a des notions de contexte géographique, les lieux, un contexte religieux, comprendre les rites religieux de la nation, comprendre pourquoi la nation est divisée, la monarchie, comprendre le contexte social de la nation. Il y a des histoires de contexte culturel, les mœurs, certaines choses qu'ils vont faire culturellement dans le pays, des expressions qui sont utilisées, qui sont d'une importance parce qu'ils ont une signification pour le peuple d'Israël. Il y a un contexte politique avec cette division, avec les monarchies, qui donne un contexte politique intérieur, mais aussi extérieur par rapport au royaume qui entoure le pays. Et le contexte géopolitique, on pourrait dire, c'est les grandes nations autour de la terre promise, mais aussi les petites nations, qui sont beaucoup mentionnés et qui ont une influence directe sur tous les événements qui ont lieu au cours de la vie des prophètes. Par rapport à la prophétie et à l'annonce du futur et des événements à venir, en note, je voulais juste donner l'idée que la prophétie... Quand on étudie les prophéties, on parle souvent d'une question de perspective, où des choses peuvent être annoncées, mais un petit peu comme par exemple avec des faux sommets quand on fait de la randonnée. Si par exemple je vous mets les deux mains comme ça, si on regarde d'ici, on va voir comme si c'était superposé. On ne va pas forcément voir l'espace qu'il y a entre les deux, à cause de la perspective. Et quand on étudie les prophéties, il peut avoir des effets comme ça dans le temps, de choses où on regarde comme ça et on ne voit pas qu'il y a peut-être quelque chose au milieu, un temps au milieu, alors que si on regarde comme ça, ben on voit et on pourrait dire que c'est un effet, certains parlent d'effet longue vue, si vous regardez avec une longue vue, vous allez voir les choses toutes comprimées les unes sur les autres. Et on va voir notamment dans Ésaïe, avec une prophétie à propos de Jésus, certains détails par rapport à ça. Et c'est important et c'est intéressant de garder ça et cette, comment je pourrais dire, humilité face aux prophéties et notre compréhension de ces prophéties, parce que parfois quand on lit, on se dit « bon, ben, c'est clair ». Et en fait, l'histoire, par exemple, du peuple d'Israël nous apprend que les Israélites avec ces prophéties, et on voit qu'en fait, ils n'avaient pas compris les prophéties, ils n'ont pas reconnu Jésus quand il est venu, et qu'en fait, ils avaient un problème de perspective, et qu'ils se sont enorgueillis, et cet orgueil les a empêchés d'avoir l'humilité nécessaire pour que quand les choses qui s'accomplissaient n'étaient pas exactement ce qu'ils comprenaient, plutôt que d'adapter leur point de vue, ils restaient bornés dans leur compréhension ou leur choix d'interprétation des prophéties. Pour rappeler le contexte un petit peu, on a cette division des royaumes du sud avec les tribus de Juda et Éphraïm et Israël au nord avec les 10 autres tribus. Au cours de l'époque de la vie d'Ésaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel, la Syrie et Babylone vont petit à petit détruire et emmener les deux royaumes en exil. On a premièrement en 721 avant Jésus-Christ, le royaume du nord, Israël, qui est emmené en captivité par la Syrie et va être mélangé au peuple du royaume assyrien. Et on avait dit que c'était d'ailleurs l'origine des Samaritains, c'était les peuples mélangés, avec notamment la capitale d'Israël qui était Samarie. Donc ça, c'est en 721 avant Jésus-Christ. En 701 avant Jésus-Christ, les Assyriens qui ont continué à faire la guerre à Juda au sud, arrivent, dévastent le pays, arrivent jusqu'à Jérusalem et ils vont être défaits par Dieu de manière surnaturelle, par l'ange de l'Éternel qui va frapper le camp dans la nuit. Et le roi Sanchérib ou Sennachérib, suivant les traductions, va repartir et ne va plus venir embêter le peuple. Ça, c'est dans 2 rois 19, éventuellement, si ça vous intéresse. Et puis finalement, en 586 avant Jésus-Christ, le royaume du sud, Juda, va être emmené à Babylone. Et l'exil complet, 586, c'est la date finale. L'exil complet prend 20 ans. Parce qu'il y a d'abord une défaite où il amène quelques personnes, mais il en laisse quelques-unes avec un roi qui est supposé être soumis au roi de Babylone, et puis le peuple va se révolter, etc. Il va revenir, ramener des gens encore en captivité. Donc il y a un peu une période de transition. Et l'exil à Babylone va durer 70 ans. Alors ça nous donne le contexte pour ces trois livres. Et Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel se succèdent en quelque sorte au cours de cette fenêtre de l'histoire du peuple. Et on commence donc avec Ésaïe. On l'appelle le prophète messianique parce qu'il annonce de manière très détaillée la venue du Messie et des choses à propos de la vie de Jésus. C'est le prophète qui est le plus cité dans le Nouveau Testament. Je suivant comment on comptabilise les choses, on dit que les livres le plus cités, c'est soit les psaumes, soit Ésaïe. Mais en tout cas, c'est un livre qui est beaucoup repris dans le Nouveau Testament. Il est écrit de façon très riche et élaborée, avec un vocabulaire très riche. Et Ésaïe annonce le jugement. Et il annonce ce jugement sur Juda parce qu'ils font attention aux rites religieux, mais ils n'ont pas d'amour pour les autres peuples et ils n'ont pas d'amour ni de sainteté pour Dieu. Mais en même temps que ce message de jugement, il promet aussi l'espérance grâce à celui qui doit venir, le serviteur souffrant de Dieu, le Messie. Et Ésaïe contient la présentation la plus claire de l'évangile de tout l'Ancien Testament, on va le regarder après, avec vraiment tout, le péché, l'état désespéré du pécheur, l'incroyable amour de Dieu, l'appel à la conversion et à la foi. Et il y a vraiment des textes qui sont incroyablement détaillés sur la vie du Messie. Pour reprendre ce que je viens de lire par rapport aux messages principaux, c'est le jugement de Dieu contre l'infidélité et le péché du peuple d'Israël. Le deuxième point, c'est la restauration d'Israël à venir malgré leur désobéissance. Et le troisième point important, c'est le Messie à venir par la maison de David. Je disais tout à l'heure que ces livres avaient été contestés à cause des détails frappants prophétiquement par rapport à la vie de Jésus. Et on avait notamment essayé de dire qu'à cause des différences un petit peu de style et pour différentes raisons, que le livre avait deux parties, une première partie qui aurait été écrite par Ésaïe et une deuxième partie qui aurait été ajoutée plus tard. Et on avait les manuscrits les plus récents qui étaient à disposition des chercheurs, datés de 900 ou 1000 après Jésus-Christ. Et dans les années 1940, on a trouvé dans les grottes de Qumran des manuscrits, et notamment on a trouvé un manuscrit complet du livre d'Ésaïe datant de 100 à 200 avant Jésus-Christ, donc avant la vie de Jésus, sans changement par rapport au manuscrit qu'on avait plus tard, et qui permettait donc de dire que ces prophéties et ces choses qui avaient été écrites l'avaient bien été avant la vie de Jésus et étaient des prophéties donc accompli dans la vie de Jésus de manière très précise et complète. Et ces grottes, ces manuscrits, on a des fragments de tous les livres du canon juif, sauf Esther. Donc tout l'Ancien Testament, on a au moins des parties, si pas des livres complets de tout l'Ancien Testament. Donc c'est vraiment des choses d'une richesse incroyable pour la foi chrétienne, par rapport à la conservation et à la fiabilité du texte biblique.
C'est vers 1940 ?
En 1947. Mmh. Qu'ils ont trouvé dans des grottes et des livres qui avaient été...
Comment tu l'appelles,
grotte ? Qumran. Q-U-M-R-A-N. Et en cherchant en ligne sur Google, il y a une foule de choses. Il y a d'ailleurs ces documents souvent qui sont en exposition, où ils les font tourner. C'est d'une grande richesse. Le contexte historique pour le livre d'Ésaïe. Ésaïe, lui, vit sous les rois Ozias, Jotham, Ahaz, Ézéchias et Manassé. Il va vivre sous l'ombre de l'Empire assyrien principalement, et lui, il va être vivant et présent dans le royaume du sud lorsque le royaume du nord, Israël, est conquis par la Syrie. Et il va être présent à Jérusalem lorsque le roi d'Assyrie vient combattre contre Jérusalem. Et c'est d'ailleurs Ésaïe qui va pousser le roi de Juda, Ézéchias, à faire confiance à Dieu pour les protéger. Et Ézéchias, qui va se tourner vers Dieu, va voir Dieu lui répondre en défendant Jérusalem et en faisant 185 000 morts dans le camp des Assyriens. Le roi assyrien va s'enfuir et ne va plus jamais venir poser de problème au royaume du sud, bien qu'ils aient déjà emmené en captivité le royaume du nord. Le livre d'Ésaïe est divisé en 66 livres, comme la Bible. On peut faire une étude comparative qui peut être intéressante, même si c'est long et c'est pas très détaillé. Les divisions en livres et en chapitres, c'est bon de se rappeler aussi que c'est pas le texte original, que c'est des choses qui ont été faites plus tard. Les chapitres, c'est en 1227 après Jésus-Christ, et les divisions en versets, c'est en 1551. Donc c'est beaucoup plus proche de nous. Donc c'est pas forcément l'écrivain à l'origine qui avait divisé le livre comme ça. Mais ça donne une bonne manière d'aborder le livre. Et il y a notamment ces deux parties qui sont assez distinctes et qu'on voit bien dans le texte comme étant deux parties, qui sont 39 comme l'Ancien Testament et 27 chapitres comme le Nouveau Testament, à savoir les livres 1 à 39 où il s'agit surtout du jugement de Dieu sur les nations, et ensuite les livres 40 à 66 où il s'agit beaucoup plus du Messie souffrant puis le règne triomphant du Messie. Alors on va regarder quelques passages importants et puis faire quelques remarques. On s'attardera pas trop sur tout le texte, mais comme je vous disais, évidemment, une des grandes parties importantes, c'est les prophéties messianiques qui annoncent Jésus en grand détail. On en lira quelques-unes. Il y a la vision du trône de Dieu au chapitre 6, avec l'appel aussi d'Ésaïe en tant que prophète au chapitre 6. Il y a des détails sur la naissance de Jésus et l'incarnation au chapitre 7 et 9. Il y a la chute de Babylone qui est annoncée au chapitre 13 et 14 et qu'on regardera avec Ézéchiel. Il y a la chute du diable, Lucifer, qui est détaillée au chapitre 14 aussi. Il y a une lettre à Cyrus, le roi, chapitre 45. Le chapitre 53, c'est l'histoire de Jésus en détail, avec ce que je vous disais, cette annonce de l'évangile qui est décrite de manière très détaillée. Ensuite, au chapitre 63, il y a le deuxième retour du Seigneur. Et il y a des détails sur le règne de 1000 ans, au chapitre 65 et 66. Où il y a notamment plus de détails sur ce règne de 1000 ans que, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse. Il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. Comme remarque, on disait qu'il y avait éventuellement deux auteurs que les gens contestaient. La manière la plus simple de réfuter ce point de vue, c'est de regarder dans Jean 12, des versets 38 à 40, où Ésaïe est cité deux fois, et on cite un verset d'Ésaïe 6 et ensuite un verset d'Ésaïe 53, donc qui fait partie des deux parties supposées et qui sont attribuées par Jean à Ésaïe. Et donc évidemment, ça a son importance, on peut le lire rapidement. Donc Jean 12, c'est page 698 dans la Bible que nous avons là. Et au verset 38, il est dit: « Ainsi s'accomplit la parole annoncée par le prophète Ésaïe. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? Ésaïe a dit encore pourquoi ils ne pouvaient pas croire. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Ésaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Donc là, on a le texte qui... Les deux passages d'Ésaïe qui sont cités font partie des deux passages qui seraient supposés de différents auteurs, et Jean les attribue tous les deux à Ésaïe. Il y a d'autres raisons qui nous poussent à dire que c'est pas un point de vue défendable. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je voulais regarder avec vous un exemple de ce que je vous disais par rapport à la prophétie et à la prophétie de deux temps. Cet effet longue vue qui permet d'avoir des problèmes de perspective par rapport au temps. Et ce que je voulais regarder, c'était dans Ésaïe 61. On a une prophétie par rapport à Jésus. Ésaïe 61 à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Ça continue. Mais on voit ici que l'annonce nous parle du fait que Jésus est venu, a été envoyé pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Et il y a un passage très intéressant dans Luc, dans la vie de Jésus, dans Luc 4, et versets 14 à 21. Et en fait, c'est une histoire de Jésus pendant sa vie, et on peut le lire ensemble. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula, et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré pour onction, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et si on regarde en détail, on voit que Jésus ne parle pas du jour de la vengeance de l'Éternel. Il parle de l'année, il le dit, une année de grâce du Seigneur. Et donc sans trop pousser l'interprétation, on pourrait dire que l'annonce et la prophétie qui se trouve dans Ésaïe est en fait deux moments dans l'histoire. Que Jésus est envoyé une première fois pour proclamer une année de grâce, et qu'une deuxième fois, à un autre moment, plus tard, il y aura la vengeance de l'Éternel ou de notre Dieu dans le texte en Ésaïe. Donc on voit par exemple que ça correspond et ça par rapport à ce qu'on sait avec le Nouveau Testament et la suite, c'est pas farfelu cette idée que Jésus est venu une première fois en tant que Messie souffrant et humble, mais que la deuxième fois qu'il viendra, qui doit encore arriver, il va venir de manière différente, en roi triomphant, et pour juger les nations. Voilà, je trouvais que ce passage était un bon exemple pour voir cette différence assez clairement et de voir Jésus lui-même qui laisse de côté la deuxième partie de la phrase, alors que nous, en lisant l'Ésaïe, on pourrait dire « Il est venu proclamer une année de grâce et le jour de vengeance ». En même temps, c'est la même chose. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a peut-être déjà, rien qu'avec ce verset-là, deux temps différents. Les versets très connus d'Ésaïe, je voulais regarder quelques versets, vous pouvez les noter si ça vous intéresse. Il y a le Ésaïe 1,18. « Venez et discutons, dit l'Éternel, même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige, même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. » Ésaïe 7, verset 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. C'est de là, par exemple, qu'on a... Je vous disais que les chapitres 7 et 9 nous donnaient des choses par rapport à la naissance de Jésus. C'est intéressant, cette idée où Dieu vous donnera un signe, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et elle l'appellera Emmanuel. On voit que dans la vie de Jésus, ça a eu lieu. Au chapitre 9, verset 5, il y a encore un verset qui est connu, on a notamment des chants à Noël. « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Alors là, je ne lis pas tous les passages et tous les détails. On peut regarder Ésaïe 29, verset 13. Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. C'est pourquoi je continuerai à étonner ce peuple par des merveilles et des miracles, de sorte que la sagesse de ces sages disparaîtra, et l'intelligence de ces hommes intelligents devra se cacher. Dans Ésaïe 35... Verset 1, le désert et le terrain sec se réjouiront, la plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Je lis ces passages parce que c'est des passages qui sont repris et dont on parle souvent dans les églises qui reviennent souvent. On peut regarder au chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. C'est un verset qui est souvent repris pour encourager, pour consoler. Ça commence à partir du verset 29 même. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Je voulais lire, surtout avant qu'on passe à la suite, l'annonce que je vous disais du Messie, versets 52 et 53. Donc c'est 52-13, à la fin du chapitre 53. Mon serviteur réussira, il grandira et gagnera en importance, il sera très haut placé. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains. Il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche. Car ils verront ce qu'on ne leur avait pas annoncé, ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Et quand on lit ce passage et qu'on regarde en parallèle la vie de Jésus, la manière dont il a été traité et sa vie avec son sacrifice, avec le fait qu'il a porté nos péchés, et qu'on se dit que ce texte-là a été écrit des centaines d'années avant la vie de Jésus, on se dit que c'est assez incroyable. C'est ce genre de texte qui gêne les gens qui veulent essayer de réduire la Bible à des textes non inspirés par Dieu. Et dans Ésaïe, il y a une foule de passages qui donnent des détails sur la vie de Jésus. Passons à Jérémie. Jérémie est le prophète qui pleure, ou le prophète qui se lamente. Il y a le livre de Jérémie, donc, qui est le livre des lamentations qui lui est attribué. Et Jérémie aimait beaucoup son pays, et il aimait beaucoup Dieu. Et Dieu lui a donné des choses terribles à annoncer au peuple, et ces choses l'attristaient énormément. C'était quelqu'un de très impopulaire. Personne ne l'a encouragé ou remercié parmi le peuple. Et il a été persécuté toute sa vie. Les prophéties qu'on voit dans Jérémie et dans Lamentations ne sont pas forcément dans un ordre chronologique. On pense que son secrétaire, Baruch, les a peut-être arrangées après sa mort. Jérémie annonce au peuple de Juda que le jugement l'attend parce qu'il a abandonné son premier amour en délaissant son alliance avec Dieu. Jérémie 8, 23 nous dit « Si seulement ma tête était remplie d'eau et mes yeux une source de larmes, je pourrais pleurer jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. » 8, 23. Jérémie 8, 23. Non ? 23. Jérémie 8, 23. Si seulement ma tête était remplie d'eau et mes yeux une source de larmes, je pourrais pleurer jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. C'est un exemple. Et on sait aussi que Jésus, plus tard, dans Matthieu 23, 37, va pleurer sur Jérusalem d'une manière similaire. À cause de ce qu'il annonce, qui est une condamnation souvent des dirigeants, du peuple notamment, il va passer plusieurs années en prison. Il sera présent pour la chute de Jérusalem. Et le roi de Babylone va lui laisser le droit, va lui dire « Tu peux rester à Jérusalem parmi les décombres, avec les quelques rescapés, les quelques personnes qu'il laisse derrière. » Et il va rester, et après ça, il va être emmené captif en Égypte, où il finit sa vie. Et selon la tradition juive, il sera lapidé par ses concitoyens qu'il avait forcé à venir avec lui en Israël, en Égypte, pardon. Donc vraiment quelqu'un qui n'a pas un appel très, très glorieux, un autre sens aux yeux de Dieu. Évidemment, c'était autre chose, mais c'était une vie difficile pour lui. Les points clés, les éléments peut-être principaux qu'on regardera, c'est le jugement divin de Dieu sur une nation dans son ensemble. L'idée qu'il accorde des jugements à des nations. Jérusalem va être punie, mais ensuite restaurée. Il est question aussi de l'exil de 70 ans. Dans Jérémie 25, où il annonce la durée et le pourquoi de cet exil, le pourquoi de cette durée. Il va annoncer dans Jérémie 31, la nouvelle alliance qui allait venir. On le regardera après. Et il va annoncer aussi la chute de Babylone, dont avait parlé Ésaïe aussi dans les chapitres 50 et 51. Jérémie, lui, vit, commence son ministère sous le roi Josias et vit jusqu'au dernier roi Sédécias à Jérusalem, dernier roi du royaume du Sud, évidemment. Il a un ministère qui s'étend sur 50 ans. Comme je vous disais, il est présent lors de la chute finale de Jérusalem. Pendant sa vie, l'Assyrie, qui avait posé des problèmes pendant la vie d'Ésaïe, avant lui, décline. Sa capitale, Ninive, est détruite en 612 avant Jésus-Christ. Son territoire est occupé petit à petit par les Chaldéens, les peuplades de Babylone. Et l'Égypte, qui était au sud, va essayer de profiter de cette baisse de l'influence de l'Assyrie pour tenter de reconquérir son territoire en montant vers Israël. Et en 605 avant Jésus-Christ, l'Égypte est écrasée lors d'une bataille qu'on appelle la bataille de Carchemish. Et je le note simplement parce que c'est Sédécias va essayer de se révolter. Il était soumis au roi Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar, et il va essayer de se révolter en s'alliant au roi d'Égypte. Il va essayer de conclure une alliance en secret pour s'extraire de l'influence du roi de Babylone, et le roi de Babylone à ce moment-là va venir le punir, et le roi d'Égypte ne fait rien pour l'aider. Et il y a beaucoup de prophéties de la part d'Ésaïe et de Jérémie où ils disent ne faites pas confiance à l'Égypte, ne vous alliez pas à l'Égypte, appuyez-vous sur Dieu. Et cette idée que dans ce contexte géopolitique avec ces trois empires, la Syrie, le Babylone et l'Égypte au sud, beaucoup des prophéties tournent autour de l'idée que la nation, la terre promise était soumise, était en proie à des attaques de ces différentes nations, et qu'ils devaient se remettre à Dieu pour les défendre. Et souvent, ils ont eu le plus de problèmes et ils sont finalement tombés quand ils s'appuyaient sur leur propre force ou quand ils essayaient de s'allier à une de ces nations pour s'extraire à ces influences. Donc Jérémie est vraiment au milieu d'un tourment géopolitique. Quand on regarde sur une carte, c'est des zones très grandes. Ça équivaut à aujourd'hui tout l'Irak, la Syrie, la Turquie, tout ce qu'on connaît où c'est encore un petit peu le souk encore aujourd'hui. Et l'autre conséquence de ce mélange de peuples qu'il est bon d'avoir en tête, c'est qu'avec les influences de toutes ces nations autour, Israël avait commencé à accepter toutes les religions et tous les dieux de toutes ces peuplades autour d'eux. Donc, il est question dans ces livres des prophètes de Baal, Astarté, Moloch, Tammuz, etc., des divinités diverses et variées des différentes nations. Et à Jérusalem, c'était devenu un petit peu un panthéon des religions. Et Jérémie, notamment, va passer une grande partie de sa vie à mettre en garde contre ses idoles. Donc le livre de Jérémie commence avec l'appel de Jérémie pour être prophète par Dieu. Il y a des prophéties qui sont prononcées avant la chute de Jérusalem, avec des mises en garde. Ensuite, il y a des prophéties après la chute de Jérusalem. Et puis, il y a des prophéties sur les nations païennes autour d'Israël qui sont prononcées, avec notamment la chute de Babylone que je vous disais. En général, c'est assez clair dans le livre de regarder. Et il faut juste un petit peu chercher pour se rappeler qui sont les peuplades et où elles étaient situées, pour arriver à se remettre dans le contexte. Quelques notes par rapport au livre. Jérémie commence, Dieu l'appelle et il dit « Je ne suis pas bon pour faire ce à quoi tu m'appelles ». Dans le premier chapitre, au verset 6, il dit « Ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune ». Et Dieu lui dit « Non ». Tu dois m'obéir, tu dois faire ce à quoi je t'appelle. Et c'est un bon rappel pour nous et un bon exemple de se rappeler que quand Dieu nous appelle, c'est pas notre compétence ou nos capacités qui font l'appel, c'est l'appel de Dieu qui conditionne notre obéissance et notre réponse. La nouvelle alliance. Je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose là aussi de très remarquable. Un petit peu à l'image de ce qu'on pouvait avoir dans Ésaïe par rapport au Messie. Jérémie 31:31 nous dit « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » etc., etc., ça continue. Mais pourquoi c'est important? Pourquoi je voulais attirer l'attention sur ça? C'est quand même, pour le remettre en contexte, c'est l'Ancien Testament lui-même qui prédit la fin de l'alliance de l'Ancien Testament et l'apparition d'un ordre nouveau. Et il y avait un des commentateurs que je lisais qui le décrivait de manière... que je trouvais très à propos. La Bible, à ce niveau-là, est assez incroyable avec un message comme ça. Et la citation, la voici. « Nous ne pensons pas que l'histoire présente un autre exemple d'une religion qui, tout en se donnant pour divine, proclame elle-même son insuffisance et annonce une nouvelle révélation qui répandra sur l'humanité des dons excellents. » et cette idée bizarre finalement de tout cet Ancien Testament qui nous dit en fait ça suffit pas, il y a besoin d'autre chose, et qui annonce elle-même l'arrivée de ce dont il y a besoin. Et quand on y réfléchit, on se dit finalement c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de religions qui disent je me suffis pas, je ne suis pas suffisant, il y a besoin de quelque chose de nouveau, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Aucune religion ne dit ça. Les religions disent on vient de Dieu et on a la réponse. C'est assez incroyable de réfléchir à ça. Ensuite, la malédiction sur Babylone, Jérémie 50 et 51. On peut s'attarder dessus, mais ça prend évidemment beaucoup de temps. Babylone commence avec la tour de Babel, Genèse 11. Et c'est le point d'origine des divisions sur la terre, des langues. Les fausses religions, on considère que c'est le début des fausses religions dans l'histoire de la Bible. La tour de Babel et la ville se sont lentement dégradées, mais sous l'empire babylonien, la ville a été reconstruite en plus grand, on dit en or massif, on parle des parmi les merveilles de l'Antiquité, de la ville de Babylone, des jardins suspendus de Babylone, et c'est l'empire qui a détruit Jérusalem, et c'est ce qui va amener le courroux de Dieu sur Babylone. Et dans Ésaïe 13 et 14, je vous avais dit tout à l'heure, et dans Jérémie 50 et 51, il y a des annonces qui sont faites sur Babylone, qui ne sera plus jamais habitée. Les matériaux de la ville ne seront plus jamais utilisés pour construire, que Babylone sera comme Sodome et Gomorre. Et la chute de Babylone intervient en 539 avant Jésus-Christ, sans bataille. Ce sont les Perses qui vont la surprendre, et plus tard les Grecs sous Alexandre le Grand, qui en fera d'ailleurs sa nouvelle capitale, et elle va avoir une lente diminution d'importance au fil du temps. Et on voit que il y a des choses intéressantes au cours de l'histoire, avec notamment Saddam Hussein qui s'est dit je vais reconstruire Babylone, qui a essayé de reconstruire mais qui n'ont pas abouti. Et on voit qu'il y a un lien avec le texte en Apocalypse, notamment les chapitres 17 et 18, avec la ville qui va être reconstruite, peut-être littéralement, on ne sait pas si c'est une représentation ou quelque chose de littéral, mais il y a ce mystère de Babylone. Et Babylone a une représentation au niveau de la Bible de ce thème de la fierté de l'homme qui essaie de s'élever à la place de Dieu, qui essaie de construire quelque chose de grand sans Dieu et qui essaie de s'opposer à Dieu dans cet orgueil et ce rejet de Dieu, avec notamment les fausses religions. Et on sait par exemple que les signes du zodiaque, que certaines religions très anciennes, même des choses, des symboles, on dit que les choses par rapport à les symboles de Pâques qui sont utilisés avec Pâques, avec les œufs, les idées par rapport à aux divinités pour la fertilité ou les choses comme ça ont eu leur origine liées à Babylone ou à Babel, à cette région des Chaldéens. Et donc il y a une continuité dans la Bible de cette idée que Babylone a tout du moins une importance symbolique, si c'est pas carrément littéral dans certains passages de l'histoire. Et c'est pour ça que ces passages ont une importance qui dure même jusqu'à aujourd'hui, malgré la chute dans le passé de Babylone, mais qui a peut-être encore un accomplissement futur avec ce qu'il y a dans l'Apocalypse, et que ces textes ont aussi une portée qui peut durer jusqu'à plus loin dans notre histoire. Brièvement sur le livre des Lamentations, parce que là on était principalement sur Jérémie, c'est un recueil de 5 poèmes acrostiches, avec l'idée de, en hébreu, le mot qu'il est utilisé, c'est l'idée de dire quoi, comment. Et c'est l'expression du choc et du désespoir face à la destruction de Jérusalem. Et c'est écrit sous la forme d'un chant funéraire de l'époque, dans la symétrie et dans la structure. Et juste pour se remettre à leur place, on a du mal à imaginer pour les Juifs ce qu'a pu être la chute de Jérusalem, la perte de leur temple, du sacerdoce, des sacrifices, de leur capitale, de leur nation, sans parler des êtres chers qui ont été tués. Toute leur identité nationale, tout ce qu'ils avaient comme identité était lié complètement à Jérusalem. Et après la défaite, ils ont dû faire une marche forcée de quasiment 3000 km pour rejoindre Babylone. Quand on parle de l'exil, c'est ils ont été amenés 3000 km plus loin. Ils devaient vivre au milieu d'un peuple bizarre, dans la pauvreté et l'esclavage. Ils ont vraiment été complètement anéantis. Et nous, dans notre monde actuel, on a du mal à comprendre ce que ça pourrait être. Aujourd'hui, avec la situation des Syriens, on peut peut-être s'imaginer un petit peu mieux, de se dire... on vous bombarde votre maison jusqu'à ce qu'elle soit aplatie. Quand on regarde en ligne les photos des villes en Syrie et qu'on voit qu'elles sont anéanties et que les gens doivent fuir pour espérer vivre avec leurs enfants, avec un petit sac et partir n'importe où pour pouvoir survivre. C'était ça l'idée. Et... le livre a un message simple, c'est que la transgression, la désobéissance appelle le désastre. Dieu, on ne se moque pas de Dieu et il y aura un jugement final. Et en même temps, il y a un message d'espoir, que Dieu est bon, n'est pas rancunier, qu'il pardonne. Et que si on reconnaît nos erreurs et qu'on change nos comportements pour lui obéir, il nous accorde un nouveau départ. Dans ces prophéties, dans ces livres des prophètes, il y a toujours cet équilibre entre le jugement de Dieu et entre son pardon et la réalité d'un reste de personnes qui vont se tourner vers Dieu, et Dieu qui va pas être rancunier, qui va les recueillir, qui va les restaurer. Ézéchiel, on l'appelle le prophète de la restauration d'Israël, et lui était prêtre et prophète aussi, et lui va vivre principalement pendant l'exil. Il est vivant déjà pour les premières défaites de Jérusalem. Et il est pris et amené à Babylone. Dans ce qu'on voit dans Chronique, on voit qu'en fait, 11 ans avant la chute finale de Jérusalem, le roi de Babylone a amené 10 000 personnes à Babylone. Et Ézéchiel fait partie de ces 10 000. Il utilise beaucoup de méthodes visuelles pour faire ses annonces prophétiques. On dit de lui que c'est un prophète dramatique. On va voir les illustrations, les choses qu'il fait pour frapper l'imagination après. Pendant qu'il était encore à Jérusalem, il a un message par rapport à la destruction imminente de Jérusalem, du jugement imminent, en les appelant à changer. Et ensuite, après la conquête de Juda par Babylone, lorsque Ézéchiel est parmi les exilés à Babylone, il va avoir un message d'espérance par rapport au futur royaume, et notamment le Messie qui doit venir plus tard, mais aussi la restauration d'Israël. Et pour se remettre un petit peu ça dans le contexte, il faut se rappeler, de se dire... dans quel état était Israël à ce moment-là? Il serait facile pour Israël de se dire que leur Dieu leur avait failli. De se dire en tant que nation, s'ils n'avaient pas fait attention, et on sait qu'ils n'avaient pas fait attention à Jérémie, Ésaïe et d'autres prophètes, et ils pouvaient se dire, finalement, Dieu, il nous a laissé tomber. Et Ézéchiel, il doit rappeler au peuple, vous êtes en exil parce que nous avons, en tant que peuple, péché et désobéi à Dieu. C'est encore un message peu reluisant. Les prophètes, ce n'étaient pas forcément des gars qui étaient gâtés avec un message qui était facile à annoncer. Et je pense que c'est un rappel aussi pour nous, parce que parfois on ne comprend pas bien ce qui nous arrive, on peut mal interpréter, et c'est important de se rappeler la bonne perspective et de relire la parole de Dieu pour avoir une bonne perspective sur ce qui nous arrive. Et notamment Ézéchiel, dans Ézéchiel 36, les versets 22 à 24, verset 22, c'est pourquoi annonce à la communauté d'Israël, voilà, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, communauté d'Israël, mais c'est pour mon saint nom, puisque vous l'avez déshonoré dans les nations où vous vous êtes rendus, je démontrerai la sainteté de mon grand nom qui a été déshonoré parmi les nations, puisque vous l'avez déshonoré au milieu d'elles, et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, déclare le Seigneur l'Éternel, quand à travers vous je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux, je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre territoire. Et même là, alors il pouvait se dire, Dieu nous a failli, et Ézéchiel, dans son message de restauration, Dieu lui dit de dire, attention, c'est pas parce que Israël a mérité quelque chose, mais je le fais parce que Israël est mon peuple et je veux que le monde voie qui je suis. C'est à cause de mon nom, c'est à cause de moi, c'est à cause de mon choix que je vais les restaurer et c'est pas eux qui ont mérité quelque chose. Là aussi, c'est cette perspective qui parfois... Peut-être que les Israélites auraient pu se dire « Chouette, il va nous ramener à Jérusalem parce qu'on est, le petit peuple génial et béni et on est les plus malins et les plus... etc. » On tombe tellement vite dans la fierté en tant qu'homme. Et ça peut être le cas pour l'Église, pour nous individuellement, de se dire qu'on mérite quelque chose, mais Dieu n'est pas intéressé par, par l'idée de forcément de nous récompenser pour nos petites... actions personnelles, bien qu'il ait un plan pour nos vies, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est son plan et sa gloire, et que le monde autour de nous le voie. Le contexte est très proche de celui de Jérémie, évidemment. Le livre se divise en différentes parties, avec ce que je vous disais, le jugement présent sur Jérusalem, des chapitres 1 à 24 avant l'exil. Des chapitres 25 à 32, les destins des différentes nations. Il y a un chapitre 28 avec des détails sur Satan, qui sont intéressants. On va regarder quelques détails. Et ensuite, des chapitres 33 à 48, la restauration de la nation d'Israël, avec quelques points intéressants, avec une vision de la vallée des eaux desséchées ou secs, qui vont reprendre vie. Une vision sur ou une prophétie sur Gog et Magog et la prophétie sur le millénium qui sont intéressants pour nous, notamment par rapport à la fin des temps et par rapport à ce qu'on pourra voir dans Daniel. Je vous disais qu'il utilisait des choses, des étranges illustrations, des choses que Dieu lui disait de faire pour que le peuple comprenne le message. Et Dieu lui avait demandé par exemple de s'enfermer lui-même dans sa maison. Après, il lui avait demandé de s'attacher lui-même avec des cordes. Il a été fait muet pendant une période où il ne pouvait plus parler. Dieu lui a demandé à un moment de rester allongé sur son côté droit, puis sur son côté gauche par terre, pour un total de 430 jours, où il devait rester allongé dans la terre, au chapitre 4. Dieu lui a demandé de manger de la nourriture préparée de manière impure, avec... des excréments qui étaient utilisés pour cuire sa nourriture, ce qui était considéré comme impur par le peuple d'Israël. Et aussi, Dieu lui a demandé de raser sa tête et sa barbe, ce qui pour un prophète à l'époque était considéré comme une honte. Donc il y a plusieurs choses comme ça qui sont un peu bizarres. comme je vous disais, dramatiques, quoi. C'est des choses assez... on se dit, waouh, c'est un peu bizarre, quoi. Si vous imaginez quelqu'un qui se met devant l'église pendant un an et demi allongé à dire « Dieu vous annonce le jugement à venir, vous allez être comme moi, partir dans la terre », c'est assez fou. Et il a beaucoup de visions. On parle aussi de visions apocalyptiques. Ça ressemble à l'Apocalypse. Les chapitres 1 à 10, il a des visions du trône de Dieu, avec notamment des visions par rapport à des chérubins qui présentent des têtes avec quatre visages, des visages de lions, de bœufs, d'hommes et d'aigles. Il y a des choses qu'on peut comparer avec Ésaïe 6 et Apocalypse 4 qui rejoignent des choses qu'on voit à d'autres moments, d'autres visions. Et on dit notamment que ces chérubins qui ont ces têtes à quatre visages, que c'est représentatif des tribus Juda, Éphraïm, Ruben et Dan. C'était leur symbole à ces quatre tribus. Et que c'est des choses qui symbolisent le Messie, en fait, Jésus. Et on compare notamment avec les évangiles, avec Matthieu, où Jésus est présenté comme le lion de la tribu de Juda. Le livre de Marc, où Jésus est présenté comme le serviteur souffrant. Le livre de Luc, où Jésus est présenté comme le fils de l'homme. Et le livre de Jean, où Jésus est présenté comme le fils de Dieu. Donc ça lie les visions dans Ézéchiel à des choses dans l'Apocalypse et par rapport à la vie de Jésus, et c'est très intéressant comme étude à faire plus en détail. Je vous disais qu'il y avait des détails par rapport à Satan. Il y a Ésaïe 14 et Ézéchiel 28 qui nous donnent plusieurs éléments, qui nous apprennent des choses sur la vie ou sur l'existence de Satan et d'où il vient et qui il est. On apprend en fait que c'était un ange, un chérubin créé par Jésus, qui était plein de sagesse, parfait en beauté, qui était couvert de pierres précieuses, qui faisait de la musique, qui était protecteur, qui était placé au-dessus des gens, des anges célestes, mais qu'à un moment il y a l'orgueil et l'arrogance qui arrivent chez lui, l'injustice qui est trouvée chez lui, et Dieu le rejette sur la terre. Et on voit notamment qu'il est présent dans le jardin d'Éden. Et on sait la suite de l'histoire par rapport à l'homme. Et dans Matthieu 25, ce qui n'est pas le texte d'Ézéchiel, on voit que l'enfer a été créé pour lui. Mais les textes d'Ésaïe 14 et d'Ézéchiel 28 nous permettent d'avoir pas mal de choses sur qui est Satan. La restauration d'Israël, il y a une vision dans Ézéchiel 37 où il voit une vallée remplie d'eau desséchée, des os, des ossements, et il a dans cette vision, il voit les eaux qui se remettent debout et qui petit à petit, il y a de la chair qui vient s'accrocher, qui se remettent à vivre en fait, et cette vision. C'est en fait la vision de la restauration d'Israël qui va être ramenée à la vie. Dans Ésaïe 11:11, si vous voulez le noter, 11:11, Ésaïe, je le cite parce que ça a un intérêt par rapport à la restauration d'Israël. Ce jour-là, le Seigneur interviendra de nouveau pour racheter le reste de son peuple, ceux qui sont restés. Et en fait, là, on voit que c'est après la venue du Messie, ici dans le texte. Et que c'est donc une deuxième restauration d'Israël. Au moment où Ézéchiel nous écrit, on sait qu'ils sont en exil à Babylone. Donc Dieu va restaurer Israël une première fois après l'exil à Babylone. Mais on sait qu'au cours de l'histoire, après la vie de Jésus, Israël va à nouveau être détruite par les Romains et le peuple va être à nouveau en exil et dispersé parmi les nations. Et donc on pense que ce passage dans Ésaïe 11:11, après la venue du rejeton d'Isaïe, le Messie, que c'est la deuxième restauration d'Israël. Et évidemment, ce qui a eu lieu dans notre histoire proche, en 1947, avec le rétablissement de la nation d'Israël, avec David Ben-Gourion et le nouvel État d'Israël, fait penser à cet accomplissement et à son importance. Pour terminer, on a déjà dépassé notre heure largement, mais juste deux points. Dans les chapitres 38 et 39, il est question de Gog et Magog. Et c'est des royaumes qui vont s'unir avec toute une liste d'autres peuplades qui vont s'unir contre Israël et Dieu. Et Dieu va intervenir lui-même pour les défaire. Et ça a un intérêt parce que ça, encore une fois, se relate à des choses qui vont avoir lieu dans l'Apocalypse et dont on pourra parler à ce moment-là. Mais on peut même, en lisant entre les lignes, il y a des commentateurs qui voient l'utilisation d'armes nucléaires. Dans Ézéchiel 39, les versets 14 et 15, il est question d'un grand nombre de morts et de morts qui sont dans une vallée où il y a des gens qui sont envoyés pour chercher les décombres des morts. Et que quand ils trouvent des restes, ils doivent les marquer. Et en fait, en cherchant, on voit que quand il y a un désastre nucléaire qui arrive, les consignes par rapport à comment traiter les territoires qui ont été contaminés par la radioactivité ressemblent étrangement à ce qui est décrit dans Ézéchiel. Alors qu'Ézéchiel a été écrit il y a 2500 ans. Et il y a d'autres choses qui font penser évidemment à ça, mais ce petit protocole, ce petit passage, les commentateurs sont assez excités par rapport à ça et par rapport à d'autres textes que je mentionnerai éventuellement quand on fait l'étude sur l'Apocalypse. Mais c'est intéressant et dans l'histoire et dans la fin des temps, on voit que entre le moment où Israël est restauré et avant le millénium et le royaume de Dieu sur terre, il y a cette opposition et cette bataille avec l'humanité qui va se liguer contre Dieu et contre Israël. Il y a aussi une de la spéculation et on essaie d'identifier les peuplades qui sont listées dans Ézéchiel 38 et 39 et de trouver à quelle nation ça correspond. Et là aussi, donc il y a des choses, donc on voit, il y a Gog et Magog, on pense que Magog éventuellement ce serait la Russie, il y a des choses avec Gomer et Togarma, il y a l'Éthiopie, Put, la Perse, d'autres peuplades qui sont mentionnées, Séba et Dédan, etc. Donc on essaie d'identifier ces peuplades à des peuplades de nos jours qui seraient des régions ou des peuplades qu'on pourrait identifier sous forme de nations. C'est des choses que vous trouverez si vous lisez certains commentaires sur ces passages. Et puis on a ce millénium qui est annoncé avec la vision du temple. Et c'est les chapitres 40 à 48 avec beaucoup de détails. Ça semble être vraiment très détaillé pour quelque chose de symbolique. Toutes les nations viennent au temple, offrent des sacrifices et des offrandes avec le temple qui est ouvert le sabbat et les jours de nouvelle lune. Et ça aussi, ça a son importance par rapport à la vision et à ce qu'on appelle le millénium, qui est annoncé aussi dans l'Apocalypse, suivant les interprétations. Mais ce passage donne beaucoup de détails par rapport à ça. Voilà. J'espère que ça vous dégrossira ces livres si vous lisez notamment Ézéchiel, ces visions qui sont qui sont le vocabulaire et les images qui sont peintes sont assez incroyables. Et c'est vraiment très intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques?
Donc en fait, pendant le millénium, on devra de nouveau faire le sabbat et faire le pèlerinage à l'autel, etc.
Il y a l'idée que c'est Jésus lui-même qui sera présent au temple et que ce sera de venir l'adorer au temple. Oui. Ce sera le règne de Jésus sur la terre. Sur cette terre à proprement parler.
Est-ce que ce sera aussi le retour à la loi?
Bah non, en fait. L'idée, c'est que sous Jésus, il y a une nouvelle alliance et quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc il y a des offrandes et des sacrifices à Jésus, mais qui ne sont pas liés à l'ancienne alliance. Alors après, ça rentre un petit peu, il y a des détails. Ce passage-là est l'un des plus détaillés dans la Bible par rapport au millénium. Donc c'est en cherchant là-dedans qu'on a des détails. Et évidemment, ce genre de textes sont sujets à énormément de spéculations et de débats controversés entre les théologiens de tous bords.